Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 6, Tom fait la connaissance de Becky. Le lundi matin, à son réveil, Tom se trouva très mal en point. Il en était d'ailleurs ainsi chaque lundi, puisque chaque lundi était le premier jour d'une semaine de travail scolaire. Tom en arrivait presque à souhaiter qu'il n'y ait pas eu de dimanche, tellement l'interruption du travail lui en rendait la reprise plus pénible. Dans son lit, il réfléchissait. Pourquoi ne dirait-il pas qu'il était malade? Ainsi, il pourrait rester à la maison. Il y avait là une idée à creuser. Tom examina la situation. Au fond, il n'avait rien. En cherchant bien, il avait tout de même un peu mal au ventre. Cela pouvait passer pour des symptômes de colique. Il fonda tous ses espoirs là-dessus. La douleur diminua, puis disparut. Il fallait trouver autre chose. Il découvrit qu'une de ses dents branlait, une dent de devant à la mâchoire supérieure. Bonne affaire. Il allait commencer par gémir pour créer un climat favorable. Mais il se rendait compte que si c'était là tout ce qu'il avait à dire, sa tante lui arracherait la dent et que cela lui ferait mal. Mettons donc momentanément la dent en réserve, pensa-t-il, et cherchons autre chose. Oui, mais quoi? Tout à coup, il se rappela avoir entendu un docteur parler d'un certain bobo qui immobilisait un malade pour 15 jours ou 3 semaines et risquait de lui coûter la perte d'un doigt. Tom sortit aussitôt un pied de dessous ses couvertures et examina son orteil malade. Mais quels étaient les symptômes du mal et de quoi fallait-il se plaindre? Il ne le savait pas très bien. Enfin, cela valait la peine d'essayer. Il se mit donc à pousser des gémissements étudiés. Mais s'il dormait comme on dort à cet âge? Tom gémit plus fort et réussit presque à se convaincre lui-même qu'il avait réellement mal aux pieds. Sid ne réagissait toujours pas. Tom commençait à être fatigué de la peine qu'il se donnait. Il fit une pause et recommença une série de gémissements qui certainement étaient des chefs-d'œuvre du genre. Sid continua à ronfler. Tom s'énervait. Il appela. Sid, Sid, et secoua son frère. Le résultat couronna ses efforts. Tom reprit son rôle de malade et se remit à gémir. Sid bâilla, s'étira, grogna, prit un point d'appui sur son coude et commença à regarder Tom. Tom gémissait toujours. Tom, dis donc Tom. Pas de réponse. Et là, Tom, Tom, qu'est-ce qu'il y a mon vieux? Sid le secoua et l'examina anxieusement. Tom gémit. Sid, surtout ne me chahute pas, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a Tom? Je vais appeler tante Polly. Non, attends, cela va peut-être passer. Ne dérange personne. Mais il faut. Tu ne peux pas continuer à gémir comme ça. Y a-t-il longtemps que tu as mal? Depuis des heures. Aïe, oh là là, ne frétille pas comme ça, tu m'énerves. Tom, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt? Ça me fend le cœur de t'entendre crier. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Je te pardonne tout, Sid, tout ce que tu m'as fait. Quand je serai mort... Tu ne vas pas mourir, Tom. Peut-être naisse. Je pardonne à tout le monde. Oh là là, aïe. Dis-le bien, à tous. Sid, tu iras trouver cette jeune fille, tu sais, qui vient d'arriver en ville. Tu lui donneras mon châssis de fenêtre et mon chat borgne. Et tu lui diras... Mais Sid s'était habillé en vitesse et était sorti. Tom avait une telle imagination et jouait si bien son rôle qu'il finissait par souffrir réellement. Et ses gémissements étaient devenus tout à fait naturels. Sid descendit les marches 4 à 4 et s'écria « Tante Polly, venez, Tom se meurt !»« Se meurt ? Oui, n'attendez pas, il serait trop tard. À d'autres, cela m'étonnerait !» Ce qui n'empêcha pas la brave dame de monter aussi vite que le lui permettaient ses vieilles jambes, avec Sid et Mary sur ses talons. Elle était toute pâle et ses lèvres tremblaient. Arrivée au chevet du malade, elle bégaya. « Tom, mon petit Tom, qu'est-ce qu'il y a ?»« Tante, je... Enfin quoi ? Tante, mon doigt de pied s'est infecté. » Rassurée, la vieille dame se laissa tomber dans un fauteuil en riant nerveusement, puis se mit à pleurer, et enfin pleura et rit tout à la fois. Lorsqu'elle fut remise de son émotion, elle le dit. « Tom, tu m'en as fait une peur. Maintenant, en voilà assez. Il faut te lever. » Les gémissements cessèrent, et du coup, Tom n'eut plus mal aux pieds. Tout penaud, il dit. « Tante Polly, mon doigt de pied semblait infecté, et j'avais tellement mal que j'en ai oublié ma dent. »«
Ta dent ? Qu'est-ce qu'elle a, ta dent ?»«
Elle va tomber, ça me fait mal. »«
Allons, allons,
assez de gémissements comme ça. Ouvre la bouche. » « Évidemment, tu as une dent qui branle, mais ce n'est pas ça qui te fera mourir. »«
Mais oui.
Va me chercher un fil de soie et rapporte un tison enflammé de la cuisine. »«
Ma tante, n'arrachez pas ma dent. Elle ne me fait plus mal. Ne me l'arrachez pas. Elle ne m'empêchera pas d'aller en classe. »«
Ah bon ? Alors tout ça, c'était pour ne pas aller à l'école, pour aller à la pêche pendant ce temps-là. » Tom, je t'aime bien, mais vraiment, quelquefois, tu exagères. »
Pendant ce temps, Mary était revenue avec les accessoires demandés. La vieille dame attacha une extrémité du fil de soie par un nœud coulant à la dent de Tom et fixa l'autre extrémité au pied du lit. Puis elle prit le tison incandescent et l'approcha brusquement de la figure de Tom. Le gamin eut un mouvement de recul et la dent fut arrachée. À quelque chose de malheur est bon. Tom, se rendant à l'école après son petit déjeuner, excita la jalousie de ses camarades à cause du trou qu'il avait dans la mâchoire. Parce que, grâce à ce trou, il avait trouvé une nouvelle façon de cracher. Du coup, il rassembla immédiatement tous les gamins autour de lui, alors qu'un de ses condisciples, qui jusque-là avait été l'objet de l'attention générale parce qu'il s'était coupé le doigt, perdait à la fois son prestige et sa clientèle. De dépit, il crut devoir dire que ce n'était pas bien difficile de cracher comme Tom. Mais un autre gamin lui répondit « Les raisins sont trop verts ». Et descendu de son piédestal, le héros des abusés dut continuer son chemin tout seul. Peu après, Tom rencontra l'enfant terrible du village, Huckleberry Finn, dont le père était un fieffé ivrogne. Toutes les mères le détestaient et le redoutaient, parce qu'il avait la réputation d'être paresseux, mal élevé et méchant, et qu'il donnait à leur fils le plus mauvais exemple. Il va sans dire qu'il était l'objet de l'admiration des enfants, qui se délectaient dans sa société et ne souhaitaient rien tant que de lui ressembler. Comme les autres, Tom, à qui sa tante défendait formellement de fréquenter Huckleberry, lui enviait sa condition de hors-la-loi notoire et ne manquait jamais une occasion de jouer avec lui. Toujours en haillons, Huckleberry s'habillait avec la défroque des grandes personnes. Il portait un énorme chapeau auquel manquait la moitié du bord, une veste qui lui tombait sur les talons, un pantalon dont le fond lui arrivait aux genoux et dont les jambes traînaient dans la poussière. Il allait et venait entièrement à sa guise. L'été, il dormait à la belle étoile, et l'hiver, il passait ses nuits dans un tonneau. Point n'était pour lui question d'école, ni d'église, de maître, ni de professeur. Il allait à la pêche quand il voulait, prenait un bain dans la rivière quand cela lui chantait, se couchait à l'heure qui lui plaisait, était toujours le premier à marcher pieds nus au printemps et le dernier à mettre des chaussures à l'approche de la saison froide. Ne se lavait jamais, ne changeait jamais de linge et jurait comme un charretier. En un mot, il jouissait de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Telle était dans Saint-Pétersbourg l'opinion de tout enfant surveillé et tenu en laisse par ses parents. Tom est là le proscrit.
« Hello, Huckleberry.
Hello, qu'est-ce que vous dites de ça ?»«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Un chat crevé. »«
Fais voir. »«
Oh, épatant.
Où l'as-tu eu ?»«
Par un échange. »«
Contre quoi ?»«
Un bon point bleu et une vessie que j'ai eue à l'abattoir. »«
Où as-tu eu le bon point bleu ? »« Je l'ai échangé avec Ben Rogers contre une canne, il y a 15 jours. Dis donc, à quoi est-ce que ça sert les chats crevés ? À quoi ça sert ? À guérir les verrues ? Penses-tu ? Je connais mieux que ça. Je parie que non. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau de pluie. De l'eau de pluie ? Ça ne doit pas valoir grand-chose. As-tu essayé ? Non, mais Bob Tanner a essayé. Qui te l'a dit ? Eh bien, il l'a dit à Jeff Thatcher, Jeff l'a dit à Johnny Baker, Johnny l'a dit à Jim Hollis, Jim l'a dit à Ben Rogers, Ben l'a dit à un nègre, et le nègre me l'a dit. Alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ils mentent tous. En tout cas, tous, sauf peut-être le nègre que je ne connais pas. Mais je n'ai jamais vu un nègre qui ne mente pas. Mon œil. Maintenant, dis-moi comment il a fait, Bob Tanner. Eh bien, il a trempé la main dans le creux d'un vieux tronc pourri où il y avait de l'eau de pluie. En plein jour, naturellement. En faisant face au tronc ? Oui, du moins je le crois. Et les paroles ? Est-ce qu'il disait quelque chose ? Peut-être, ça, je ne sais pas. Ah, comment peut-on s'imaginer guérir des verrues avec de l'eau de pluie en s'y prenant aussi bêtement ? Mais ça ne peut pas réussir. Il faut aller tout seul, en pleine forêt, là où on a repéré un tronc où il y avait de l'eau de pluie. Et, à minuit tapant, on tourne le dos au tronc, on met la main dans l'eau de pluie et on dit « eau de pluie, avale mes verrues ». Après ça, on fait 11 pas, les yeux fermés, on tourne 3 fois sur soi-même et on revient chez soi sans adresser la parole à personne. Parce que si on parle, c'est loupé. Ta recette paraît bonne, mais ce n'est pas comme ça que Bob Tanner a fait. Évidemment qu'il ne l'a pas fait. Il n'y a personne en ville qui soit plus couvert de verrues que lui. S'il avait su comment s'y prendre, il n'en aurait plus. Moi, c'est comme ça que je me suis débarrassée de milliers de verrues sur mes mains. Je joue tout le temps avec des grenouilles. Alors, pour les verrues, tu parles. Quelquefois, je me sers d'une fève pour les faire partir. Oui, la fève, ça fait de l'effet. Moi aussi, je m'en suis servie. Ah, tu as essayé ? Comment as-tu fait ? Eh bien, tu sépares la fève en deux, tu t'arranges pour faire saigner ta verrue, tu mets un peu de sang sur une moitié de la fève que tu enterres à une croisée de chemin à minuit. Faut pas qu'il y ait de lune. Tu prends l'autre moitié de la fève et tu la brûles. La moitié de la fève sur laquelle il y a du sang se met à tirer, à appeler l'autre morceau. Alors le sang tire la verrue et peu après, elle s'en va. C'est ça, Huck, c'est bien ça. Seulement, quand tu enterres la fève, il faut dire « fève dedans, verrue dehors ». Tu ne m'embêteras jamais plus. Ça fait encore plus d'effet. C'est comme ça que fait Joe Harper. Et il a été à Coonville et partout. Mais dis un peu, avec les chats crevés, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, tu prends ton chat et tu vas dans le cimetière à minuit. Il faut que dans la journée, quelqu'un de méchant ait été enterré. À minuit, un diable vient. Peut-être 2 ou 3. Tu ne les vois pas. Quand ils se déplacent, c'est comme si on entendait souffler le vent. Ou quelquefois, tu les entends parler. Quand ils emportent le mort, tu lances le chat après eux et tu dis « Corps suis diable, chat suis corps, verrue suis chat, je n'en ai plus. » Il n'y a pas de verrue qui résiste à ça. Ça a l'air d'être un bon truc. Tu as essayé ? Non, mais la mère Hopkins me l'a assuré. Alors, ça doit être vrai, parce qu'on dit qu'elle est un peu sorcière. Il n'y a pas d'on-dit. C'en est une, je le sais. Même qu'elle a jeté un sort à papa. C'est papa qui me l'a dit. Un jour qu'il passait auprès d'elle, il a senti qu'elle lui jetait le sort. Alors, il a ramassé un caillou et si elle n'avait pas changé de direction, il l'aurait eu. Eh bien, le soir même, en se couchant, il est tombé, vu qu'il était saoul, et il s'est cassé un bras. Ça, alors, ça m'embouche un coin. Et comment s'est-il aperçu qu'elle lui jetait un sort ?
Paraît que c'est facile à voir. Papa, il dit que quand une sorcière vous regarde fixement, c'est qu'elle vous jette un sort. Surtout si elle marmonne quelque chose en même temps. Parce que, quand elle marmonne, c'est qu'elle récite le Notre Père à l'envers.
Dis donc, qui ?
Quand est-ce que tu vas essayer ton chat ?
Ce soir. Sûr qu'ils viendront chercher le vieux Williams.
Mais c'est samedi qu'on l'a enterré. Ils ne sont pas venus le chercher samedi soir.
Dis pas de bêtises. Tu sais bien que les charmes n'opèrent pas avant minuit.
Minuit, samedi soir. C'était dimanche. Est-ce que tu te figures que les diables travaillent le dimanche, par hasard ?
C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça.
Dis donc, est-ce que je pourrais aller avec toi ?
Je veux bien, si tu n'as pas peur.
Peur, moi ? Non mais, sans blague, tu miauleras en passant devant la maison.
Entendu, mais réponds-moi autant que possible. L'autre soir, tu m'as laissé miauler tellement longtemps que le père Hayes a fini par me jeter des pierres en me traitant de saleté de chat. Alors moi, je lui ai flanqué une brique dans ses carreaux. Tu ne vas pas raconter ça, au moins.
Pas de danger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu te répondre parce que tante Polly n'était pas encore couchée. Mais ce soir, je te répondrai.
Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ?
Un scarabée.
Où l'as-tu trouvé ?
Dans les bois.
Vends-le-moi. Combien ?
Je sais pas. Et puis, je ne le vends pas. Je le garde.
Si tu veux. D'ailleurs, il est moche.
Facile à dire que quelque chose est moche quand ça ne vous appartient pas.
Moi, il me va. Ça me suffit.
Oh, les scarabées, c'est pas ça qui manque. Je pourrais en avoir 1000 si je voulais.
Alors pourquoi que tu ne les as pas ?
Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas. Celui-là, c'est un jeune, il me semble. C'est le premier que je vois de cette année.
Et si je te l'échangeais contre ma dent ?
Fais voir. Tom sortit de sa poche un morceau de papier qu'il déplia soigneusement. Huckleberry le suivit des yeux avec attention. La tentation était forte. À la fin, il demanda :
C'est une vraie ?
Tom souleva sa lèvre et montra le trou.
Affaire conclue.
Tom mit l'insecte dans la boîte à amorce qui avait auparavant servi de prison au cancrelat, et les deux gamins se séparèrent, chacun avec le sentiment qu'il venait de faire une bonne affaire. Quand Tom arriva en vue de l'école, il pressa le pas pour se donner l'air d'un élève qui n'a pas perdu son temps. Il accrocha son chapeau au porte-manteau et s'assit à sa place d'un air affairé. Le maître, que le bourdonnement de l'étude avait assoupi dans son fauteuil, se dressa d'un bond.
« Thomas Sawyer !»
Tom savait que, quand on l'appelait par son nom tout entier, cela ne présageait rien de bon.
« Monsieur ? » ?»« Venez ici ! Toujours en retard ! C'est une habitude chez vous ! »
Tom était sur le point de mentir quand il aperçut deux longues nattes de cheveux blonds dans le dos d'une personne que son cœur lui fit reconnaître. De plus, il remarqua que la seule place vacante du côté des filles était précisément auprès d'elle. Changeant ses batteries, il répondit sans embâge. Je m'étais attardé à causer avec Huckleberry Finn. Le maître eut un haut-le-cœur et regarda Tom avec stupeur. Le bourdonnement de l'étude cessa. Les élèves se demandaient si l'imprudent n'avait pas perdu l'esprit.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je m'étais attardée à causer avec Huckleberry Finn. Pas d'erreur.
Thomas Sawyer, c'est là l'aveu le plus surprenant que j'ai jamais entendu. Cette faute mérite un châtiment. Ôtez votre veste.
Le bras vengeur frappa jusqu'à ce qu'il fût fatigué et que le paquet de verges eût notablement diminué. Puis le maître ajouta. « Maintenant, monsieur, allez vous asseoir avec les filles et que cela vous serve de leçon. » Devant les ricanements qui s'étaient élevés dans la classe, Tom avait paru rougir de honte. En réalité, ce qui le remplissait de confusion, c'était le respect mêlé de crainte qu'il éprouvait pour son idole inconnue et l'heureuse surprise de la bonne fortune qui venait de lui échoir. N'allait-il pas approcher de son idole ? Il s'assit à l'extrémité du banc. La jeune fille eut un dédaigneux mouvement de tête et se recula jusqu'à l'autre bout. Les camarades se poussaient du coude. échangeaient des clins d'œil et des chuchotements. Tom resta immobile, les bras sur son pupitre, paraissant absorbé dans l'étude de ses leçons. Peu à peu, l'attention se détourna de lui. Le bourdonnement habituel reprit son cours. Tom lança à sa voisine de furtifs coups d'œil. Celle-ci s'en aperçut, fit une moue et lui tourna délibérément le dos pendant un instant. Quand, prudemment, elle se retourna, elle trouva devant elle une pêche qu'elle repoussa. Tom la lui offrit à nouveau. Elle la repoussa encore, quoique avec moins de fermeté. Patient, Tom renouvela sa manœuvre. Cette fois, elle ne repoussa plus la pêche. Tom écrivit sur son ardoise. « Prends-la, j'en ai d'autres. » La jeune fille lut, mais ne broncha pas. Tom commença à faire sur son ardoise un dessin qu'il cachait soigneusement de sa main gauche. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Puis, le désir de voir fut le plus fort. Tom continua comme si de rien n'était. Elle essaya de regarder. Tom fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Cédant à sa curiosité, elle finit par murmurer timidement. « Fais voir !» Tom découvrit à moitié un gribouillage informe représentant une maison à deux pignons et une cheminée de laquelle s'échappait un filet de fumée en forme de tire-bouchon. La fillette se passionna pour ce chef-d'œuvre, au point qu'elle en oubliait de travailler. Quand la maison fut terminée, elle l'admira un instant, puis chuchota. « Ce qu'elle est jolie ! Dessine un homme maintenant !» L'artiste en herbe dessina au premier plan un immense bonhomme qui ressemblait au derrick d'un puits de pétrole et était de taille à enjamber la maison. Mais la petite n'était pas difficile. Cette sorte de monstre lui plut. « Magnifique ! Dessine-moi maintenant !» Tom dessina une espèce de sablier surmonté d'une pleine lune, avec des bras qui ressemblaient à des brins de paille et des mains aux doigts écartés, qui tenaient un éventail gigantesque. La petite dit « C'est splendide, je voudrais bien savoir dessiner. »« Ce n'est pas difficile, je t'apprendrai, » dit Tom. « Tu veux bien ? Quand ? À midi ? Est-ce que tu retournes chez toi pour déjeuner ? » ?»« Je resterai si tu veux. »« Ça c'est chic ! » Comment t'appelles-tu ? Becky Thatcher. Et toi ? Ah oui, je sais. Thomas Sawyer. C'est comme ça qu'on m'appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, je m'appelle Tom. Tu m'appelleras Tom, veux-tu ?
Oui.
Tom recommença à tracer quelque chose sur son ardoise en se cachant. Mais chez la petite, toute timidité avait disparu. Elle le demanda à voir. Tom dit : Ce n'est rien. Si, c'est quelque chose. « Non, ce n'est rien, je n'y tiens pas. »« Mais si, je tiens à voir. Montre un peu. »« Tu vas le raconter. »«
Non, je ne le raconterai à personne, c'est juré. »«
Tu ne le diras à personne ?»«
Aussi longtemps que tu vivras ?»«
Non, je ne le dirai à personne. »« Et maintenant, fais voir. »«
Non, ça ne t'intéresse pas. »«
Puisque tu le prends comme ça, je veux voir. » Elle mit sa petite main sur la sienne. Un simulacre d'escarmouche s'ensuivit. Tom faisant semblant de résister pour de bon, mais retirant petit à petit sa main jusqu'à ce qu'elle pût lire « Je t'aime ».
« Oh, le vilain !»
Elle lui donna une tape sur la main, rougit et ne parut nullement contrariée. À cet instant précis, Tom se sentit saisir par l'oreille et eut l'impression d'être soulevé de son banc. Il dut traverser ainsi toute la classe et fut ramené à sa place habituelle sous les regards railleurs de ses camarades. Le maître se tint derrière Tom pendant quelques instants qui lui parurent durer un siècle. Puis il retourna à sa chaise sans dire un mot. L'oreille de Tom lui brûlait, mais par contre, il avait de la joie plein le cœur. Quand la classe fut calmée, Tom essaya loyalement de s'appliquer à ce qu'il faisait. Mais en lui, l'agitation était trop forte. Au cours de lecture, il échoua lamentablement. Au cours de géographie, il transforma les lacs en montagnes, les montagnes en fleuves, les fleuves en continents et les continents en chaos. Au cours de dictée, il trébucha sur l'orthographe des mots les plus élémentaires, tant et si bien qu'il fut le dernier de sa classe et dut restituer la médaille qu'il portait avec ostentation depuis des mois.